Vous êtes sur RTL.
Moi aussi je vous vois, Stéphane Carpentier pour RTL Soir, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir dans RTL Soir. Deux heures d'infos pour vivre l'actualité. Actualité américaine ce vendredi, car trois jours après la présidentielle aux États-Unis, trois longs jours de dépouillement et de projection, Joe Biden est ce soir au seuil de la Maison Blanche. Le camp démocrate commence à revendiquer la victoire, mais aucun grand média américain n'a encore désigné le vainqueur final. Suspense donc toujours à la une du journal présenté par Olivier Bois. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Effectivement, toujours pas de fumée blanche, mais un tournant majeur cet après-midi. Joe Biden a viré en tête en Pennsylvanie. Une victoire là-bas lui suffit pour l'emporter. Les résultats peuvent tomber maintenant à tout instant. Dans son camp, vous le disiez, on le considère déjà, pour certains en tout cas, comme le président élu. Et d'ailleurs, comme un cymbale, on y sera dans un instant. L'ambiance a brusquement changé aussi autour de son domicile à Wilmington. Sécurité maximale, les services secrets ont renforcé le dispositif. À la une également ce soir, comment freiner cette seconde vague de Covid. Les lycées se réorganisent à partir de la semaine prochaine. Certains, vous l'entendrez, avaient devancé l'appel. Et puis, il y a cette question qui dérange. Faudra-t-il se résoudre à confiner uniquement les personnes de plus de 65 ans? Vous verrez que le sujet est de moins en moins tabou à l'Élysée. Le sport et le tennis, à l'instant même au Masters de Paris-Bercy, la défaite du Français Hugo Humbert en 3-7 au tie-break face à Milos Raonic. On retrouvera Isabelle Langer dans quelques instants. Et puis, on prendra l'air également. Départ du Vendée Globe, dimanche, huis clos total. Les quais, la grande plage seront totalement fermés au public. Les marins, évidemment, n'ont jamais connu ça.
Le verdict attendu de la présidentielle américaine, commenté ce soir dans RTL Soir à 18h15, d'abord par la journaliste Anne Toulouse, spécialiste des États-Unis, à 18h35 ensuite par le député Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord. Sans oublier le regard d'Éric Brunet, il sera 18h50 et un épisode dont défait le monde très américain à 19h15. Voilà le programme, soyez tous les bienvenus. Avant cela, la météo chez nous demain. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Un sud pas gâté, retour du mauvais temps. Hein.
Oui, et de mauvais temps qui est présent en Espagne à l'heure qu'il est. Alors c'est déjà chargé sur l'Aquitaine et sur les Pyrénées en ce moment. Ça va se confirmer donc pour la journée de demain avec une grosse dégradation orageuse dès le matin dans le sud-ouest, des vents forts, des pluies soutenues qui vont se décaler peu à peu vers le sud-est au fil de la journée et remonter légèrement vers la Bretagne. Du coup, sur toute la façade ouest, ce sera quand même bien chargé avec des averses. Et pendant ce temps-là, dans le nord et dans l'est, et ben là tout va bien. On aura une très très belle journée ensoleillée avec des températures encore un poil fraîches au réveil, une fourchette de 0 à 15 degrés entre les Ardennes et le Roussillon. Ça remonte en journée. 15 degrés à Dijon, 17 à Paris, à Brest, à Besançon, 19 à Toulouse et Bordeaux, 20 degrés à Clermont-Ferrand et 21 degrés à Marseille.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Joe Biden takes the lead in Pennsylvania. Et vous entendez ce titre en boucle sur toutes les chaînes américaines depuis cet après-midi. Joe Biden en tête en Pennsylvanie. Bonsoir Philippe Corbet.
Bonsoir.
Correspondant RTL aux États-Unis. Ça fait trois jours, Philippe, qu'on vous demande matin, midi et soir si c'est imminent. Alors, pas de fumée blanche officielle, on le précise évidemment. Mais c'est vrai que cette inversion de tendance en Pennsylvanie, elle change tout.
Oui, pour que les auditeurs comprennent ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le scénario qu'on imaginait ou qu'on devinait depuis trois jours est en train de se passer. C'est-à-dire que l'avance incroyable qu'avait le président Trump dans les premiers dépouillements des votes du jour du vote de mardi, cette avance incroyable s'est réduite au fur et à mesure quand ils ont pris en compte le dépouillement des votes anticipés, des votes par correspondance qui avaient été majoritairement démocrates. Donc voilà, cet après-midi, Joe Biden est passé en tête sur le total des votes en Pennsylvanie. On en est maintenant à 8867 voix sur, je crois qu'on est sur 7 millions de voix, donc c'est pas grand-chose. Mais c'est suffisant pour qu'ils prennent la tête. C'est aussi plus que le nombre de bulletins par correspondance reçue après le jour de l'élection. C'est important parce que c'est le motif de contestation que soulève le camp Trump. Donc ça serait, l'avance de Biden serait déjà au-delà du motif de contestation qu'avance la campagne Trump. Et quand on regarde les trois autres États importants, 1500 voix d'avance pour Biden en Géorgie, il va y avoir un recomptage. Mais dans le Nevada et l'Arizona, 22 000 voix d'avance, 43 000 voix d'avance. C'est-à-dire que l'écart de Biden ces dernières heures s'est accru dans ces deux États, alors que le camp Trump espérait justement que cet écart se réduise et que Trump puisse dépasser Biden dans ces deux États.
Merci beaucoup Philippe Corbet, on vous retrouve dans un instant pour parler de ce que fait Donald Trump en attendant. Mais écoutez d'abord cette déclaration de Nancy Pelosi, qui est la présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis et pour qui il n'y a plus aucun doute.
J'aurais aimé que nous ne portions pas de masque aujourd'hui pour que vous puissiez voir à quel point c'est excitant de me présenter devant vous aujourd'hui avec Joe Biden qui obtient ce mandat formidable. Sans tarder, on ne l'appellera plus vice-président, mais président élu Joe Biden. C'est un jour heureux pour notre pays.
Voilà la déclaration quasiment catégorique de Nancy Pelosi. On va prendre la direction maintenant de Wilmington, dans le Delaware, justement chez Joe Biden. Bonsoir Sinamir, vous êtes sur place.
Bonsoir.
L'ambiance aussi a changé brusquement cet après-midi autour de son domicile.
Oui, c'est un autre signe sur le chemin de la victoire pour le candidat démocrate autour de sa maison, au milieu de cette forêt très tranquille aux couleurs d'automne du Delaware. C'est toute une bulle sécuritaire qui est en train d'être construite par l'armée dans les airs et par le Secret Service, le service de sécurité présidentielle, au sol, autour de la maison de Joe Biden. Plusieurs barrages sont renforcés, on voit les gyrophares, on entend les chiens aboyer. Chaque voiture de voisin est inspectée avant de la laisser passer. Frank a 49 ans, c'est le jardinier de ce quartier pavillonnaire cossu, un jardinier heureux qu'on a rencontré il y a quelques minutes.
On sait qu'il l'a fait, qu'il va devenir président. Je lui souhaite beaucoup de chance et j'ai appris pour le Nevada et pour toutes les autres victoires qui se dessinent, qu'il a remportées. Ça me rend très heureux.
À Wilmington, dans cette ville campagne que veut incarner le très probable futur président élu des États-Unis, on mise sur sa capacité à rassembler désormais, à créer des ponts d'est en ouest dans un pays très divisé, ce qui ne sera pas tâche aisée pour Rebecca, l'une de ses supportrices.
Je suis à la fois excitée et en même temps j'appréhende. Avant que tout soit confirmé, je pense qu'il y aura encore beaucoup de divisions et d'agressivité entre les deux camps, surtout de la droite.
Avant de partir, cette jeune gérante d'un espace de travail partagé nous montre son plus beau sourire et sa confiance. Ce que j'espère surtout qu'on va retrouver, dit-elle avec Biden, c'est le respect du monde entier.
Merci beaucoup Sinamir, envoyé spécial d'RTL, donc devant le domicile de Joe Biden. Et on vous retrouve comme promis Philippe Corbet avec cette question. Que fait Donald Trump pendant ce temps-là? Ça fait deux jours, Philippe, que vous nous décrivez un président qu'on imagine fulminant dans son bureau, scotché aux éditions spéciales. Il continue en tout cas sur le même ton.
Oui, et on sait même quelle chaîne il regarde. Il regarde Fox Business, qui est la petite sœur de Fox News, parce que Fox News, depuis deux jours, et notamment ce matin, rappelle de façon solennelle et régulière à ses téléspectateurs qu'il n'y a à ce stade aucune preuve de fraude, comme l'avance le président, et que rien ne permet de laisser penser que l'écart entre Biden et Trump va se resserrer. Donc Fox News fait son travail. Le président regarde l'autre chaîne, Fox Business, et tweet au fur et à mesure avec des accusations de fraude, en accusant le gouverneur de Pennsylvanie de violer la Constitution. On sait qu'il passe des coups de fil aussi à des dirigeants républicains. On sait, parce qu'il l'a dit à des conseillers, qu'il ne prévoit pas, même si les grands médias dans les prochaines minutes annoncent la victoire de Joe Biden, il ne prévoit pas de prononcer un discours pour reconnaître sa défaite. Un porte-parole de la campagne Biden a dit il y a à peu près une heure au New York Times que si le président Trump refuse de concéder sa défaite, alors, je cite, les autorités américaines ont tout pouvoir d'escorter n'importe quel intrus en dehors de la Maison-Blanche.
Oui, le ton a changé. Merci beaucoup Philippe Corbet, correspondant RTL aux États-Unis. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir, Stéphane, sur l'élection américaine, donc de plus en plus imminente, ça c'est sûr.
Et évidemment, et on va suivre tout cela avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, avec nos invités en studio, puisqu'on prolonge cette actualité américaine. L'autre grand titre ce soir, Olivier, face à la crise du coronavirus, l'organisation dans les lycées va changer dès la semaine prochaine.
Oui, la grogne était trop forte, on l'a dit, hein, trop de monde dans les classes, trop de monde dans les cantines. Dès la semaine prochaine, établissement par établissement, les proviseurs pourront organiser soit des demi-classes, soit des rotations par niveau scolaire. Certains avaient d'ailleurs déjà devancé l'appel. Morad Jabari, vous êtes allé au lycée Marie Curie à Versailles. La nouvelle organisation, en l'occurrence, est en place depuis mardi.
Oui, dans ce lycée, les emplois du temps ont été complètement repensés, chamboulés. Rien ne change pour les terminales. En revanche, tout a été fait pour que les secondes et les premières ne se croisent plus dans les couloirs.
Cette semaine, les cours à distance, c'est le lundi, mardi et mercredi. Et on est en présentiel le jeudi et le vendredi. La semaine prochaine, ça sera l'inverse.
Cela permet aux premières et aux secondes de suivre au moins la moitié de leurs cours en présentiel. Le reste se fait à la maison et donc, contrairement au précédent confinement, garder un lien étroit avec leurs professeurs.
C'est plus facile pour suivre les cours parce que du coup, en général, ils nous donnent les exercices à faire à la maison et après, ils expliquent en cours. C'est plus simple de comprendre qu'avoir seulement en visio.
Et puis surtout, diviser par 3 le nombre de lycéens, éviter les embouteillages dans les couloirs, réduire les contaminations dans le lieu le plus sensible du lycée, là où le masque disparaît, la cantine.
Avant, à la cantine, on était tous mélangés et tout. On était tous collés et le virus, il pouvait beaucoup plus circuler, quoi. On est moins dans le lycée, on est quand même 1500 normalement et du coup, il y a moins de brassage d'élèves.
Un protocole très attendu, rassurant pour les élèves. Ces dernières semaines, les contaminations se sont multipliées. Hier encore, dans une même classe, deux lycéens ont été testés positifs.
Un reportage de Morad Djabari. Alors, je vous le disais, il y a une question qui revient dans le débat ce soir face à une épidémie qui s'aggrave et qui va durer. On l'a compris, va-t-il falloir se résoudre à faire un confinement par tranche d'âge en demandant plus d'efforts aux personnes de plus de 65 ans? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a redit ce qu'il en pensait ce midi.
Je comprends que la question puisse être posée, mais si on raisonne bien, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, les gens n'ont plus le droit de sortir de chez eux et les autres peuvent continuer à circuler. Drôle de société, mais admettons, raisonnement par l'absurde, on le fait. Quelle est la faisabilité? Si vous êtes un couple de retraités qui vivait dans une résidence pavillonnaire avec, pourquoi pas, un jardin, peut-être que le confinement est envisageable. Mais si vous habitez dans un quartier populaire, que vous êtes parfois à deux ou trois générations dans un appartement, vous faites comment? Donc, à la fois pour des raisons de faisabilité, à la fois pour des raisons de solidarité entre les générations, et nous y sommes très attachés, ce n'est pas une solution que nous avons retenue et que nous retiendrons.
Voilà donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui semble assez catégorique sur la question. Une solution que nous ne retiendrons pas, voilà ce qu'il dit. Pourtant, Vincent Derosier, on dit que le sujet est de moins en moins tabou pour Emmanuel Macron.
Oui, l'hypothèse n'est pas abandonnée du tout, loin de là. Ça fait partie des options pour l'après, confie même un proche du président. Autrement dit, lorsque l'épidémie sera sous contrôle. Il y a encore quelques semaines, pourtant, Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler d'un reconfinement des plus âgés. Sujet trop sensible, d'abord parce qu'il est techniquement et légalement très compliqué, mais aussi et surtout pour des raisons électorales. La colère des seniors à 2 ans de l'élection présidentielle, c'est un risque beaucoup trop grand. Et puis le chef de l'État a peu à peu changé d'avis, notamment parce qu'il n'y a pas 50 solutions pour protéger les plus exposés au virus lors d'un déconfinement. Cette mesure peut être pertinente, disait même le président lors de sa dernière allocution télévisée. Mais pour l'instant, l'hypothèse reste dans les cartons de l'Élysée, car l'exécutif ne veut pas stigmatiser les plus fragiles et faire croire aux Français que tout pourrait redevenir comme avant en reconfinant simplement une partie de la population.
Merci Vincent Derosier du service politique d'RTL. En bref, dans l'enquête sur la mort de Samuel Paty, 2 jeunes hommes de 18 ans et une jeune femme de 17 ans sont présentés au juge en vue d'une éventuelle mise en examen. L'un d'entre eux est suspecté d'avoir été en contact avec le terroriste et d'avoir parlé avec lui de djihad. La jeune femme et son petit ami auraient par ailleurs évoqué récemment une volonté de partir en Syrie.
Vous restez bien là dans un instant. La suite de RTL Soir, 18h12, Olivier Bois revient pour vous parler tennis. Bercy, c'est terminé pour Hugo Humbert. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
18h13, en ce vendredi soir, la suite du journal avec Olivier Bois. Et donc le tennis, le tournoi de Paris-Bercy et Hugo Humbert, c'est terminé.
Hein. Oui, c'est terminé. Défaite contre Milos Raonic. Cruelle défaite, Isabelle Langer, on vous retrouve à Paris-Bercy.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ça s'est joué sur un rien, comme à la roulette russe dans un tie-break à couper le souffle. Au troisième set, un jeu décisif remporté 9 points à 7 par Milos Raonic sur un boulet de canon, un ace à 229 km/h. C'est d'autant plus une déception pour Hugo Humbert qu'il a eu 2 balles de match dans ce tie-break, mais qu'il s'est montré trop timide pour conclure. Reste que le médecin de 22 ans a réussi un très beau parcours à Bercy qui va lui permettre de grimper au 30e rang mondial, qu'on a adoré son attitude irréprochable, son mental de guerrier. Le garçon est humble, discret, à l'image de l'éducation que ce fils de boucher a reçue. Comme il nous le disait en début de semaine, il n'est pas là pour être sous les projecteurs, mais pour progresser. Et sa marge de progression, justement, est encore importante. Autant dire qu'on a hâte de le revoir sur un court.
Merci beaucoup Isabelle Langer. Un mot de football après la défaite en Ligue des Champions à Porto. L'OM retrouve la Ligue 1 ce soir et se déplace à Strasbourg.
Le Vendée Globe départ dimanche des Sables d'Olonne. L'ambiance promet d'être un peu surréaliste.
Hein. Oui, parce que c'est normalement une fête incroyable hein, pendant tout le week-end dans ce petit port de Vendée pour le départ de ce qui est la plus prestigieuse épreuve de voile tour du monde en solitaire sur un monocoque. Il y a 4 ans, on avait quand même compté 450 000 personnes sur tout le week-end. La Patrice Gabart, ce sera 8 clos total.
Oui, les promenades du port, les quais, les jetées, la grande plage, fermées au public par arrêté préfectoral. Le départ de cette 9e édition du Vendée Globe se fera donc dans un strict 8 clos. Une bien triste nouvelle pour le public qui envahissait habituellement les Sables d'Olonne le jour J pour saluer le courage des skippers, ces héros des temps modernes. Il n'y aura donc pas de holà ni de liesse populaire dimanche matin le long du chenal, mais les coureurs mesurent surtout leur chance de pouvoir prendre le départ. Louis Burton en confinement avec sa famille à Saint-Malo avant son troisième Vendée Globe.
Bien sûr que c'est plus sympa quand il y a énormément de monde et c'est un vrai, vrai, vrai soutien moral. Ben maintenant, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mais on peut partir quand même. Et vu le contexte, on a le privilège de partir, on a le privilège de faire notre sport. Non, il ne faut pas être triste, c'est une vraie chance.
De l'avis général aussi, le confinement depuis une semaine, voire deux semaines pour la plupart des skippers, est une bonne chose pour eux. Il leur a permis de bien se reposer, loin de l'agitation habituelle du village du Vendée Globe, et peaufiner leur analyse météo. Dimanche, ciel bleu et léger vent de sud pour le départ, mais ça risque de se compliquer par la suite jusqu'aux Canaries.
Merci beaucoup Patrice Gabart. Le Vendée Globe, c'est 74 jours lors de la dernière édition, mais là, il devrait battre tous les records, prédit-on en tout cas.
Aventure extraordinaire, évidemment. Olivier Bois revient à 18h30 pour vous informer, bien sûr, vous avez à disposition. RTL.fr. L'actualité du moment, ce sont les États-Unis, la présidentielle américaine, toujours pas de verdict. On en parle dans un instant en direct avec la journaliste Anne Toulouse, elle est spécialiste des États-Unis. Elle avait signé un bouquin il y a 4 ans, Dans la tête de Donald Trump. On dialogue juste après ça.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
18h19, en direct, notre invité est en studio ce soir et la journaliste Anne Toulouse. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Spécialiste des États-Unis, je le disais juste avant la coupure, auteur en 2016 de Dans la tête de Donald Trump aux éditions Stock. Est-ce que vous, avant ces 3-4 jours de folie, de dépouillement, de projection, vous auriez imaginé que ça se passe comme ça, que ça soit aussi long et aussi serré?
Enfin, les sondeurs prévoyaient une vague bleue, mais on avait aussi parlé du mirage rouge qui était le fait qu'on allait dépouiller d'abord les votes qui étaient favorables à...